Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui dresse le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, un texte personnel et une bribe de phrases marquantes entendues dans son entourage ou l'espace public. On est ensemble pour une vingtaine de minutes avec l'invitée du mois de février. Bonjour Wendy.
Bonjour Louisa.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais dans la vie, si tu as des passions, des loisirs ?
Donc je m'appelle Wendy, j'ai 31 ans, je travaille à la Garde républicaine. Je suis chargée de production pour le chœur de l'armée française, qui est donc un chœur d'hommes. Et dans la vie autre que mon travail, que j'aime beaucoup, je fais du théâtre aussi en amateur. J'ai rejoint une troupe amateur il y a quelques années, donc je fais du théâtre depuis même déjà plus de 10 ans et je les ai rejoints il y a 3-4 ans pour monter des pièces. Là, on est en pleine création.
Super. On commence tout de suite avec ton choix d'artiste. Wendy, la première étape de l'émission, c'est celle du choix d'un artiste ou d'une artiste qui, toi, te touche particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne ?
Alors moi, l'artiste que j'ai choisi, c'est Mathias Malzieu, qui est le chanteur du groupe Dionysos. Il est aussi écrivain et réalisateur. En fait, j'aime beaucoup cet artiste parce qu'il est très complet. Il fait de la musique, des livres, des films. Les trois supports sont en général liés. C'est-à-dire qu'il va écrire un livre, ensuite il va sortir la bande originale avec son groupe, et pour deux de ses livres, il les a adaptés en film, un en dessin animé et un autre en film. Donc c'est vrai que se plonger en écoutant l'album dans le livre, puis en regardant le film, moi, il crée vraiment un univers à lui. Et évidemment, le groupe fait beaucoup aussi. Au-delà de ça, moi sur scène, je trouve que c'est une bête de scène. Le gars, il fait 1m65, mais c'est une pile électrique. Moi, je les ai vus plusieurs fois sur scène, et il slame toujours, donc c'est-à-dire qu'il saute dans le public et il se fait porter par le public. Une fois à Rock en Seine, je les ai vus, et donc il a sauté dans le public et il a traversé tout le public de Rock en Seine, donc qui est à peu près 10 000 personnes, pour aller monter sur la tour de la régie. J'ai des souvenirs de fou avec eux, en fait, en concert, parce que, bah, toujours ce concert de Rock en Seine, par exemple, je suis montée avec eux sur scène. Ils avaient créé une chorégraphie autour de leur album. Au fur et à mesure des artistes qui passaient, moi, je me suis retrouvée à la barrière pour eux. Et le vigile avait vu que je connaissais toutes les chansons par cœur. Et donc, à un moment, Mathias Malzieu dit « Vous avez 10 secondes pour monter sur scène si vous voulez venir danser avec nous. » J'étais là paniquée. Le vigile me regarde, me pointe du doigt, me fait un signe. Il me prend par les épaules, me soulève au-dessus de la barrière et me voilà sur scène, à Rock en Seine, devant donc 10 000 personnes, avec mon groupe favori. C'était juste un moment, mais incroyable. Et quelques mois plus tard, ils ont refait la même chose à l'Olympia. Et pareil, je me suis retrouvée encore sur scène avec eux à l'Olympia.
Il n'y a plus trop de frontières entre la fanbase ou la fangirl que toi tu es et l'artiste. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec d'autres artistes ou c'est justement avec cette personne-là et donc tu te dis « Ok, c'est cet artiste-là qui est mon artiste phare en fait. »
Bah, c'est surtout avec eux. Après, voilà, moi, je les ai vus. La première fois, c'était sur la scène des Victoires de la Musique. Et quand je l'ai vu sauter partout, je me suis dit « Mais ça, c'est génial !» C'est super de faire ça. Il sautait sur les épaules de Nagui. Enfin, bon, il détruisait le décor, quoi. Donc, moi, j'ai juste trouvé ça dingue. Et voilà, c'est au fur et à mesure, après, justement, de dédicaces, d'autres rencontres aussi. Il a sorti un livre qui s'appelait Une sirène à Paris. Enfin, qui s'appelle toujours Une sirène à Paris. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, avec son éditeur, ils ont fait une chasse au trésor dans tout Paris. Et le but, c'était de trouver une vingtaine de livres cachés dans les endroits phares dont il parlait dans le livre. Donc, j'ai réussi à trouver ce livre. Il était à côté de l'aquarium qui est au Trocadéro. Et en fait, on s'est retrouvés à plusieurs fans. parce que bah, forcément, on était tous à chercher. Moins il y avait de livres, plus on se regroupait finalement en petits groupes. Et c'était vraiment super de partager ça tous ensemble.
Tu es aussi sensible à la personnalité du chanteur Mathias Malzieu, dans le sens où parfois il y a des personnes qui passent dans le podcast et qui me disent « j'adore tel artiste pour toutes ses œuvres ». Toi, tu me dis « j'adore tel artiste pour toutes ses œuvres », mais aussi pour sa personnalité un peu déjantée sur scène ou à créer des espèces de jeux ludiques pour les fans. Mm. Donc son univers dépasse en fait sa personne pour aussi vous contaminer un petit peu à vous les fans quoi.
Oui, c'est ça, nous on se prend au jeu, enfin voilà, mais c'est vraiment l'univers qu'il a créé. Quand on lit là en début d'année, il a sorti un recueil de tous ses livres qui s'appelle l'Extraordinarium, et en fait il y a une continuité, c'est vraiment un vrai univers, c'est-à-dire que quand on lit toutes ces histoires, on retrouve éventuellement le lien entre chacune d'elles. Et je trouve qu'il continue à construire ça.
Parfois, on parle d'œuvre totale, etc. J'ai l'impression que c'est un artiste total, un artiste monde, quoi.
Oui.
Merci beaucoup. On passe tout de suite à ton coup de cœur musical. Wendy, tu as dû choisir une musique maintenant à nous partager. Est-ce que, avant qu'on l'écoute, tu peux nous dire le nom de l'artiste et le titre du morceau ?
Donc j'ai choisi L'affiche rouge, chantée par Feu Chatterton, qui est une reprise de Léo Ferré.
Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini, plus tard en y rêvant. Soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. Et toi qui criais la France en s'abattant.
Wendy, pourquoi cette chanson ?
En fait, cette chanson, je l'ai d'abord entendue par un des chanteurs avec qui je travaille. Lors de certains concerts, il le chante avec un orchestre à cordes, un petit effectif. Et je ne connaissais pas du tout avant de l'avoir écouté dans ce contexte-là. Après, j'en ai entendu parler, voilà, l'affiche rouge. Et de par mon travail, cette chanson est ressortie plusieurs fois. D'abord le 18 juin 2023, quand Emmanuel Macron a annoncé la panthéonisation de Missak Manouchian. Les chanteurs avec qui je travaille l'ont chanté au Mont Valérien, là où il s'est fait fusiller, en fait. Donc, il y avait dans la clairière des fusillés du Mont Valérien, ils l'ont chanté. Donc, déjà, la charge émotionnelle était très importante. Et ensuite, j'ai entendu que Feu Chatterton, qui est un autre groupe que j'aime beaucoup, l'avait reprise sur sa série de concerts, là, du Palais d'Argile. La reprise est incroyable. La manière épurée dont elle est chantée, toute la puissance que le chanteur Arthur Teboul met dans cette chanson est assez folle, moi, je trouve. Et le fait de l'avoir reprise les a amenés, eux, à la chanter lors de la panthéonisation de Missak Manouchian. Et le dernier souvenir que j'ai avec cette chanson, en fait, j'ai vu Feu Chatterton, ils avaient fait une résidence au Louvre et ils ont conclu leur résidence par 3 concerts. Ils l'ont chantée et quand ils ont fini, le monsieur à côté de moi pleurait, je l'ai entendu renifler. Donc je me suis dit, je pense qu'il pleure. Et il y a eu 10-15 secondes, mais des secondes qui m'ont paru interminables, où en fait on ne savait pas si on devait applaudir ou quoi. Ou laisser ce moment suspendu. Je pense qu'on aurait pu ne pas applaudir, tellement en fait ça cassait le moment.
Un mot qui me vient et qui m'est venu quand je l'ai écouté pour la première fois, c'est « aura ». Parce qu'il se passe vraiment quelque chose où, comme tu dis, ça laisse sans voix et on écoute, en fait, on est hyper attentif aux moindres mots. Parce qu'en fait, ce texte, c'est un poème à la base de Aragon, mis en musique par Léo Ferré, et l'a repris, etc. Donc je pense qu'il y a aussi des couches d'époque qu'on doit sentir. Et c'est assez beau que tu dises qu'il y avait une émotion collective quand vous l'avez vu ensemble, au Louvre. Parce qu'effectivement, il y a l'histoire avec un grand H, en mode on est tous concernés par ça. Et l'émotion aussi individuelle, quoi. Est-ce que toi, tu saurais décrire un petit peu ce que ça te fait à toi, en fait ?
Non, c'est très difficile, parce que l'histoire, c'est l'histoire, comme tu dis, avec un grand H. Moi, ça ne me concerne pas spécialement, même si, voilà, en fait, c'est lié à des souvenirs de concert, c'est lié à des souvenirs du boulot, en fait, c'est idiot, mais maintenant que je baigne un petit peu dans ces commémorations-là, moi, je vais régulièrement au Panthéon dans le cadre de mon travail. Et ils ont exposé la lettre de Missak à Méliné.
Femme qui a aussi été enterrée au Panthéon.
Exactement. Et il y a plusieurs chanteurs ont été la voir. Et il y en a un, il est revenu en larmes. Il m'a dit, mais cette lettre, elle est incroyable. Enfin, c'est la lettre d'un condamné à sa femme. Dans la chanson, il dit, pense à moi souvent et continue à vivre, en fait.
Il y a aussi un rythme bien particulier, enfin là on l'a écouté en studio, nous on parle comme ça dans la vie assez rapidement et puis là d'un coup on se pose et on écoute, quoi. Merci beaucoup, on passe maintenant à ton partage de texte. Wendy, on va maintenant t'écouter toi avec tes propres mots dans ton partage de texte. Est-ce que avant de nous le lire, tu peux nous raconter quand est-ce qu'il est né et quand est-ce que tu l'as écrit ?
Je l'ai écrit cet après-midi. Avant de venir enregistrer, je savais que je devais écrire un texte. J'ai beaucoup réfléchi au thème et à ce que je voulais écrire. En fait, j'ai assez peu d'imagination, donc j'ai écrit sur le thème que je connais le mieux, c'est-à-dire moi, sans être tout à fait égocentrique. Hein. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde sur ce que j'ai écrit.
Merci beaucoup, on t'écoute.
Donc en fait, j'ai écrit une lettre à mon moi du passé. Cher moi du passé, d'abord te dire que tu n'as rien à regretter de tes choix passés. Tout ce que tu as décidé t'a permis de rencontrer des gens exceptionnels et de faire des voyages extraordinaires. Tu es là où tu dois être aujourd'hui. Le seul reproche que je peux faire, c'est au toi du début du collège. Attention, je ne te blâme pas, tu n'étais pas encore armé pour ça, mais ça, tu ne le sauras qu'avec beaucoup de recul. Et c'est peut-être ça qui finalement t'a rendue plus forte. Mais j'aimerais te dire que tu n'avais pas à subir ça de la part de celle que tu as longtemps présentée comme ta meilleure amie. Ça n'est pas normal d'aller au collège avec la boule au ventre parce que tu ne sais pas si aujourd'hui elle va t'adresser la parole. Qu'elle te boude pendant 24 heures parce que tu as donné une feuille à quelqu'un à qui elle ne parlait pas ce jour-là. Qu'elle te demande de te mettre à genoux pour refaire ses lacets. Qu'elle t'incite à demander à un garçon qui te plaît d'aller à la boum avec elle, alors qu'elle sait pertinemment qu'il dira non. et j'ai sûrement occulté d'autres petites humiliations du même acabit. Ça, ma petite Wendy, ça s'appelle du harcèlement moral en milieu scolaire. Mais tu ne t'en rendras compte que plus tard, quand le harcèlement scolaire viendra sur la place publique. Je n'en veux pas aux adultes. Qui pourrait imaginer que la première de la classe ait un tel ascendant sur la deuxième meilleure élève ? Elles sont plus intelligentes que ça, l'une et l'autre. Et puis elles paraissent s'entendre tellement bien. C'est une autre qui m'a sauvée de cette emprise. Une fille que j'ai ignorée la première fois qu'elle m'a parlé, tellement j'étais aveuglée et que je ne voulais rien faire qui puisse contrarier celle qui ne me parlait pas ce jour-là. Finalement, ma sauveuse est devenue ma meilleure amie, a largement remplacé l'ancienne, au point qu'elle est encore aujourd'hui celle vers qui je me tourne, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Je ne la remercierai jamais assez. Alors, Wendy du passé, tu aurais pu dire non à ces humiliations récurrentes, mais je comprends que tu n'aies pas réussi à le faire. Alors, à l'adulte que je suis devenue, aux autres adultes qui côtoient des enfants, collégiens, les apparences peuvent être trompeuses et le mal-être si facilement dissimulé derrière des bonnes notes. Moi du passé, je suis fière de toi car cette situation ne t'a pas freinée dans ta réussite scolaire. Tes 10 en sport n'étaient pas dus à ça, nous le savons toutes les deux. Moi du futur, quand tu auras des enfants, sois vigilante à ça et aide-les à préparer leurs armes pour faire face à cela, mais sans que eux-mêmes ne deviennent les persécuteurs. Les persécuteurs subissent également un mal-être, et je sais avoir été la victime d'une jalousie qui nous dépassait, elle et moi. Malheureusement, je suis rancunière, et elle n'a jamais eu le courage de me demander pardon.
Merci beaucoup, Wendy, pour ton partage de texte, qui effectivement, je pense, va aider plus d'une personne, donc merci. Sans transition, on passe à ton œuvre phare. Donc, c'est une œuvre que tu as choisie parmi un panel de genres artistiques différents. Film, théâtre, photo, littérature, ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que c'est ?
Alors moi, c'est un livre. C'est vrai que le panel était super large et j'aurais pu tellement choisir une pièce de théâtre. Alors ça se recoupe un peu parce que j'ai vu une adaptation de ce livre en pièce de théâtre.
Super.
Donc j'ai choisi Le cœur cousu de Carole Martinez, qui est un roman sur une famille. Alors ça se situe fin 19e, début 20e, et c'est l'histoire de cette famille. En fait, cette femme a une espèce de pouvoir magique. Elle a reçu une boîte à couture qui fait des choses un petit peu magiques. On ne sait pas vraiment, on est toujours à la frontière de l'imaginaire et du réel. Je me souviens qu'à la lecture, j'avais cette sensation de désert. C'est très étrange, mais quand je le lisais, j'avais l'impression d'être transportée dans le désert, de sentir la poussière autour de moi et de marcher avec elle. En fait, elle part avec toute sa famille, elle traverse l'Espagne. Et j'avais vraiment la sensation de faire le voyage avec elle, d'être transportée comme ça. C'est la sensation qui m'en reste.
Donc c'est quand l'imaginaire presque du livre devient ton réel à toi, quoi.
C'est ça, c'était un peu ça, et j'ai adoré. Enfin, en plus, les personnages sont tous plus dingues les uns que les autres. Moi, il y a un passage qui m'a marqué où, en fait, son mari devient un peu dingue des combats de coqs. Et il tombe presque littéralement amoureux d'un coq roux magnifique. Et en fait, elle va accoucher d'un petit garçon roux, roux comme ce coq.
Et est-ce qu'il y a un extrait particulièrement qui t'a marqué et que tu as envie de nous partager aujourd'hui ?
Alors, il y a un extrait que j'ai retrouvé, je me souviens l'avoir lu en étant dans le métro, en allant à la fac. Et à ce moment-là, j'avais une musique irlandaise un peu guerrière dans les oreilles. Et ça correspondait tellement bien à l'extrait que je vais lire que je suis arrivée à la fac, je ne voulais plus m'arrêter en fait. Je voulais continuer et me replonger là-dedans. C'est une des filles de l'héroïne, et ils se sont retrouvés au milieu des révolutionnaires espagnols. Angela avait commencé à chanter au milieu de la foule. Sa plainte s'était élevée au-dessus du peuple rassemblé, et les gens autour d'elle avaient vite hissé la petite sur leurs épaules pour que son chant porte plus loin, pour que tous voient le visage de l'enfant inconnu, de cette gamine aux yeux trop ronds qui exaltait leur peine avec cette force et cette fraîcheur. Sa voix amplifiait leurs mots. Elle les leur prenait dans la gorge pour les projeter contre les murs, contre la porte cloutée, dans les rues, sur le ciel déjà assombri à l'est. lamento de leur misère, beauté tirée de l'horreur d'avoir été dépossédés d'eux-mêmes, d'avoir été tantôt chiens quand il leur fallait chercher, nez au sol, main collée dans la boue, la chasse des maîtres, tantôt mulets et chargés à ne plus pouvoir se tenir droit, jamais. Chanson qu'on éventre, gorge déchirée par l'épine des douleurs muettes.
J'ai l'impression que dans tout ton portrait radio, Wendy, dans tes choix, il y a toujours un rapport à la voix, au chant et à l'histoire politique. Enfin, tu vois, on a des scènes comme ça de regroupement, que ce soit des commémorations, comme on a dit, ou là, une manifestation.
T'es pas tracé, mais en effet, de ce que tu dis maintenant, oui, c'est... Moi, j'ai toujours aimé la chanson, les musiques. Enfin, ça a toujours fait partie de ma vie, j'imagine, comme beaucoup d'autres gens. Mais c'est vrai que maintenant, de travailler dans ce milieu-là aussi, forcément, ça implique que j'écoute aussi beaucoup de choses et ça me sort un peu de ma zone de confort parce que c'est pas forcément ce que j'écouterais.
Merci beaucoup. On finit avec ta bribe de phrase.
Hey, listen. You're too crazy, nigga.
C'est déjà la fin de l'émission. La dernière étape, c'est la bribe de phrase, donc très liée au réel, mais on n'est pas loin de l'imaginaire, parce qu'en fait, forcément, ça évoque des choses en nous quand on entend des phrases comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où, voilà, t'as entendu une phrase qui, soit dans l'espace public, les cafés, les transports, la rue, t'a marqué, soit dans ton entourage, et nous dire cette phrase d'ailleurs?
Alors, c'est une anecdote de voyage, en fait. Avec mon père, on a fait pendant 3 semaines le Transsibérien. Donc on est parti de Moscou pour arriver à Pékin 3 semaines plus tard en train. Nous avons fait une halte au lac Baïkal, gelé en plein mois de février. Et il s'avère que nous sommes retrouvés avec un groupe de 5-6 chinoises dans ce même van pour faire un tour. Et donc nous parlions en français avec mon père, elle parlait en chinois. Et mon père me dit, mais tu comprends ce qu'elle dit? Elles sont chinoises, j'ai étudié le chinois. Donc je lui dis, oui, je comprends exactement ce qu'elle raconte. Il m'a dit, vas-y, parle avec elle. Je lui dis, non, attends, j'attends le moment propice. Et en effet, le moment propice est arrivé où à un moment, en chinois, elles se sont demandé quelle langue on parlait. J'ai fini par leur répondre en chinois que nous parlions français. Et alors là, je me suis fait 5 nouvelles copines. D'un coup, ça a été l'euphorie dans la voiture. Ah, mais elle parle chinois. Et donc, forcément... Et donc là, je regarde mon père, je fais, tu vois, c'était exactement le bon moment que j'attendais pour révéler que je parlais chinois. Je les revois émerveillées. Et en fait, après, forcément, j'ai dû avoir une conversation avec elle, puisque on pouvait facilement échanger.
Ok, merci beaucoup, Wendy. Encore une rencontre. Un grand merci à toi d'être passé par Radio Campus Paris et d'avoir été la voix enchantée de février 2025. On se retrouve dans un mois tout pile, le 11 mars, sur le 93.9 et quand vous voulez, en podcast, sur le site de la radio et Spotify. Adios, gracias y hasta pronto pour l'Espagne. Et toi, en chinois, comment tu dirais?
Zaijian.